Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Encore un beau casting hein, ce dimanche midi. Écoutez, c'est une comédienne populaire qui fait partie de la famille. Elle incarne une mère de famille justement dans le film Les Folies Fermières qui sort mercredi prochain, d'après une histoire vraie. Michel Bernier est avec nous ce midi. Ancien prix Goncourt, il invente sans cesse de nouvelles histoires. Son dernier roman raconte celle d'une vraie mère ou presque. C'est le titre, c'est Didier Van Kovelaert qui sera avec nous. Et Emmanuel Rubin, notre gastronome en chef, va nous emmener au cabaret, là où le spectacle doit être sur scène et dans l'assiette. Et pour faire écho au film Les Folies Fermières, tourné dans le Cantal, un chef auvergnat avec nous ce dimanche midi, c'est François Gagnère, chef du restaurant Anicia à Paris, qui est au fourneau. Voilà, vous savez tout. Bonjour Michel Bernier.
Et bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Heureux de vous accueillir à cette table.
Moi, j'attendais, je salivais même de venir.
Un déjeuner du dimanche avec Michel Bernier, je me frotte les mains, moi. Mais c'est vrai, parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Je le disais, vous faites partie de la famille, en fait. Merci. Comment ça va ?
Mais ça va très, très bien. Je suis en pleine forme, ravie d'être là avec vous. Voilà, moi, tous les moments merveilleux de la vie, je les déguste.
Qu'est-ce que vous faites habituellement le dimanche midi, comme ça, sur les coups de 11 heures ?
Alors, sur les coups de 11 heures, je vais dans mon quartier à Paris, rue des Martyrs. J'ai beaucoup de chance, parce que c'est encore une des rues de Paris avec beaucoup de commerces de bouche, comme on dit. Et donc, c'est vrai que c'est très agréable de faire ses courses avec son petit cabas là, voilà. On rencontre beaucoup de copains, donc ça aussi c'est chouette, se dire qu'on va se régaler le midi et qu'on va, ça va être suivi d'une sieste d'enfer.
Ah oui.
Parce que ça, c'est sacré, la sieste du dimanche.
Voilà. C'est tout un art, ça aussi, la
sieste.
Ah ben oui, attendons.
Ça ne se fait pas n'importe comment.
Attendez, il ne faut pas rigoler avec ça. Alors, vous venez nous voir avec un film qui s'appelle Les Folies Fermières. On va en parler longuement. Ça se passe dans le monde agricole. Dans le monde agricole, le dimanche matin, sur les coups de 11 heures, c'est peut-être un des rares moments où on a une petite pause et où on peut penser un petit peu à soi aussi.
Ben oui, j'imagine que le dimanche, c'est le jour un peu plus calme aussi pour les agriculteurs, encore qu'eux, ils doivent bosser tout le temps.
Oui, les animaux n'attendent
pas. Voilà, le rythme reste intense. Mais quand même, le dimanche reste ce moment familial, quoi. Je pense que, par exemple, ce qu'on a vécu avec le confinement, on s'est rendu compte à quel point c'était important, ces petits rendez-vous hebdomadaires, comme ça, avec soit ses amis, soit sa famille. Mais voilà, se réunir autour de quelque chose de doux, on a le temps, effectivement.
C'est ça. Prenons le temps, cassons le rythme. Alors, votre film, Les Folies Fermières, est tourné en Auvergne. Il y a une région riche en spécialités régionales et en restaurateurs. Vous avez eu le temps de faire de jolis souvenirs de table là-bas Auvergne.
C'est-à-dire que là-bas en Auvergne, voilà, en plus on était on était en couvre-feu pendant qu'on tournait, donc on était dans un chouette hôtel où ils nous ont fait vraiment à manger merveilleusement. Et puis là, le Cantal, ce fromage incroyable. On a tourné dans une ferme donc Christelle et Pierre qui nous ont reçus dans leur merveilleux endroits, et eux ils font le Cantal. D'ailleurs, on m'a appris à le faire dans le film Je touille.
Oui, exactement. Oui, parce que vous êtes la mère d'Alban Ivanov, hein, qui joue le rôle de David Comet, qu'on recevra tout à l'heure. David, il sera avec nous tout à l'heure à cette table, parce que je veux vraiment qu'on l'entende sur son histoire vraie qui a inspiré ce film. Et je vous présente un autre régional de l'étape, tiens. C'est un Auvergnat, c'est François Gagnère, chef du restaurant Anicia à Paris. Bonjour François.
Bonjour Laurent. Bonjour,
Michel Bernier, François Gagnère.
Bonsoir.
Alors, vous avez été longtemps chef au Puy-en-Velay.
Hein. Oui.
Vous avez eu une étoile au guide Michelin au Puy-en-Velay. Vous êtes installé aujourd'hui, pas loin d'ici. C'est vrai que quand je viens faire cette émission, je passe tout le temps devant son restaurant et je me dis, il faut absolument que
un
que
jour,
François...
il faut rentrer.
Et là, c'est... Et voilà, il y a un jour... Faut... Oui, non, mais je suis déjà rentré dans son restaurant plein de fois, mais il faut qu'il vienne ici, lui.
Ah, voilà c'est
ça.
Lui qui vient.
C'est lui qui vient. Et là, l'occasion était trop belle. On va cuisiner l'Auvergne aujourd'hui.
Les voisins, on va cuisiner l'Auvergne, on va cuisiner le sud de l'Auvergne, la Haute-Loire, le département vraiment cousin de
du Cantal.
Je connais
bien, là où il y a un accent particulier, hein, pour le sud de Saint-Étienne, là-haut.
C'est ça, exactement.
C'est ça. Fouillat, du côté de Saint-Étienne.
Oui.
C'est ça. Donc le Puy-en-Velay, Anicia, c'est le nom ancien du Puy-en-Velay, le nom du restaurant. Et c'est Anicia est également le nom de semence de la lentille verte du Puy, la spécialité locale.
Voilà. Ah, oui. Le caviar de la région.
Évidemment. Hein,
la lentille verte du Puy, avec cette petite pellicule très fine, une amande très sucrée. Il y a un vrai savoir-faire hein, qu'on préserve autour de la lentille verte du Puy.
On essaie. Il faut aussi... protéger ces producteurs de lentilles qui souffrent de plus en plus avec le réchauffement de la planète. Donc, il faut promouvoir cette lentille. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Pas que des lentilles, mais il y en aura. Hein. Racontez-nous, François Gagnère.
Oui, un petit apéritif. on va proposer la lentille des trois façons dont on peut la cuisiner. En grain, sous la forme du caviar, puisqu'on a, on a créé cette recette il y a pas mal d'années maintenant, le caviar du Velay.
Donc, alors ça, c'est beau.
Je vous laisse la surprise.
Ouais. Ah ouais, on va déguster. Oui.
Qui dit caviar dit blinisme à base de farine de lentille. Et puis là, je suis en train de préparer un houmous à la lentille.
Ah ouais.
Donc avec un petit peu d'épices, du citron, voilà.
Magnifique, voilà. Ça, c'est une belle mise en bouche, une déclinaison autour de la lentille verte.
Oui, parce qu'elle n'a pas très bonne réputation, la lentille. Hein. C'est vrai qu'on nous l'a servi longtemps dans les cantines, qui n'était pas bonne. Voilà, c'était un peu la punition.
Et là, ce sont des vertes. Hein. Il y a les lentilles. C'est surtout les brunes qu'on nous servait, les blondes, qu'on nous servait.
Il fallait trier les lentilles.
Il fallait. Et maintenant, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis de pierre.
Maintenant, il y a un vrai savoir-faire. Alors, je pense à ceux qui nous écoutent dans le Berry, on fait de belles lentilles dans aussi, le Berry aussi. Hein.
Aussi, voilà. mais la lentille verte du Puy est supérieure puisque c'est un AOP, une AOP avec la lentille de Sillaos à La Réunion. Ce sont les deux seuls AOP.
Oui, absolument. Et il y a la lentille de Saint-Flour
aussi.
Elles
sont toutes bonnes.
Mais oui, elles sont toutes bonnes. Mais bien sûr, on va leur faire
faisons
honneur.
Faisons des lentilles.
Et alors ça, c'est pour l'entrée, mais en plat, qu'est-ce qu'on mange alors, François Gagnère?
On va proposer un agneau de 7 heures. Ça sera la Noire du Velay, qui est une race aussi locale du département de la Haute-Loire, qui est une race assez robuste, qui a la particularité de faire 3 petits en 2 ans. On a lancé la cuisson il y a déjà quelques temps, évidemment, puisque ça confit tout doucement.
3 petits en 2 ans.
Voilà.
Vous me faites une transition. Vous avez fait deux petits, vous. Est-ce que vous voulez...
En plus longtemps que ça.
En plus longtemps que ça. Est-ce que vous faites de belles tablées du dimanche avec ces deux petits qui sont grands maintenant?
Oui, ils sont très grands, mais ils m'ont même fait grand-mère maintenant. Donc, il y a encore des petits en plus. Non, on aime être ensemble. Hein, on est une famille assez fusionnelle. Donc, se retrouver. Même autour de coquillettes au beurre avec du gruyère, ça nous fait plaisir parce que c'est le partage qui est chouette.
Le moment qui compte. Voilà, c'est de se retrouver.
La table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà en cuisine autour de Michel Bernier. Le chef François Gagnère est au fourneau. Vous venez nous voir, Michel Bernier, avec un film qui s'appelle Les Folies Fermières, qui sort mercredi prochain. Alors, c'est l'histoire d'un agriculteur, d'après une histoire vraie, qui a une idée originale pour sauver sa ferme, monter un cabaret à la ferme. Le spectacle doit être sur scène et dans l'assiette avec les produits du coin. Hein. C'est lui qui le dit, cet agriculteur. Il est incarné par Alban Ivanov. Vous jouez sa mère.
Oui.
Et alors là, j'ai vu le film, alors pour tout vous dire, avec ma mère, en plus. Hier, et à chaque phrase, c'est une réplique, c'est un scud hein, quand même. Non, mais c'est vrai.
Mais j'ai été gâtée sur ce personnage. C'est vrai que quand Jean-Pierre Méris, le réalisateur, m'a appelée pour faire ce film, j'avais l'impression que c'était comme s'il avait sonné à la bonne porte. Alors, pas spécialement parce que ça me faisait plaisir de faire le cinéma, mais d'abord, j'avais vu déjà l'histoire de David Comet et que j'avais trouvé ça extraordinaire parce que moi, j'adore la variété, j'adore le spectacle, j'adore les shows et tout ça. Et donc, je sentais dans cette histoire quelque chose d'assez passionnant et d'original en même temps. Et que c'était pas non plus un rôle totalement à contre-emploi de ce que je fais habituellement. Et puis il y a une chaleur humaine dans ce scénario qui m'a plu énormément. Et puis cette maman qui se fait du souci pour son fils au départ parce que il cherche des sous pour sauver sa ferme et qu'elle le trouve trop rêveur et elle lui en veut un peu, elle comprend pas bien ce qu'il essaye de faire. Et puis alors quand il ramène le cabaret en disant je vais faire un cabaret, elle a peur et en même temps après elle se laisse emporter par ce rêve qui commence à devenir réalité, par les artistes autour de lui et puis d'avoir du monde à la maison.
Oui, c'est, hein,
c'est ce qu'on dit, c'est
vie,
que tout d'un coup de faire de la truffade pour tout le monde, ça régénère l'essence et puis elle va découvrir l'amour et tout ça. Et donc j'ai l'impression qu'autour de ce film là il y a l'idée que on peut être ensemble, partager, peu importe de quel univers on vient. Et au contraire, je veux dire, entre Philippe Benhamou dans le film qui est un travesti et qui chante Dalida. Nous qui sommes à la ferme, les possibilités sont multiples.
Alors votre personnage au départ, il n'est pas complètement d'accord votre fils transforme sa grange en cabaret. Hein.
Mais parce que d'abord, pour beaucoup de gens, c'est quand même des choses qui n'appartiennent qu'à la ville. Enfin, on s'imagine que ça ne va pas marcher. Qui va se déplacer pour aller voir des plumes, autre que dans le poulailler. Et puis, c'est l'angoisse d'une mère. Mais je pense que c'est l'angoisse d'une mère, comme n'importe quelle mère, quand votre enfant vous dit ah bah tiens, je voudrais faire ça comme métier ou partir loin à l'étranger, etc. C'est les angoisses d'une mère.
Oui, mais voilà. Vous n'avez pas connu ces réticences familiales, j'ai l'impression, non, de la part de vos parents, de votre maman qui est partie tôt, mais de votre père qu'on connaît tous, le professeur Choron, qui était quelqu'un, voilà, qui avait une liberté. Sa religion, c'était ça, c'était la liberté.
Oui, mais en fait, moi, quand j'ai commencé à faire du droit pour un peu pour faire plaisir à mon père, parce qu'il devait se dire, ma fille, elle aura, parce que mes parents étaient de milieu modeste, et que c'est vrai que l'idée que leur fille puisse faire des études et devenir avocate ou médecin, peu importe, en tout cas, c'était une espèce de revanche sur le démarrage de leur vie. Et puis, en fait, je me suis ennuyée énormément sur les bancs de la fac. Et j'avais des copains qui faisaient du théâtre à l'époque, qui étaient dans un cours, le cours Virio. Et je les écoutais parler, j'étais fascinée. Et puis un jour, ils m'ont dit, mais viens voir. Et quand j'y suis allée, j'ai dit, bah, effectivement, c'est ma maison. Voilà.
Quelles sont les valeurs familiales que vous ont transmises, vous diriez, votre père, votre mère, que vous retrouvez aujourd'hui et que vous pouvez transmettre à nouveau à vos enfants?
Alors, mon Dieu, d'abord, s'aimer, quoi qu'il arrive, on ne juge pas ses enfants, on leur fait confiance. La confiance, c'est l'amour, évidemment, mais la confiance, je crois que c'est quelque chose de très, très fort. Quand on fait confiance à ses enfants, ça donne de la force pour beaucoup de choses. Et puis, le doute, ne jamais être un... Voilà, un mouton qui suit, se poser des questions, voilà, et puis être ensemble. Enfin, vraiment, on est une famille un peu comme ça, un peu inséparable.
Votre père était un peu habité aussi par ça, par le doute, toujours envie de se remettre en question, de faire. On rappelle que c'est lui quand même qui est à la tête d'Harakiri. Charlie Hebdo, c'est lui à qui on doit la naissance de Charlie Hebdo. C'est pas rien quand même.
Non, c'est pas rien. Non, moi j'ai vécu les choses. En fait, moi, Harakiri, j'étais petite, donc je me rendais pas bien compte de ce que ça pouvait représenter. Et j'avoue que voilà, je voyais
un peu. La change de Martine à la plage.
Ah bah complètement. Mais alors, ce qui fait rire, par exemple, l'écrivain Jean Tellet qui a travaillé quelques années à Charlie Hebdo, il me dit un jour, il m'a dit, mais tu sais, en fait, nous, on se cachait pour lire Harakiri ou Charlie Hebdo, et toi, je sais que tu te cachais pour lire le journal de Lisette ou le journal de Mickey. Bête. Ah non, mais mon père est détesté Walt Disney, donc je me cachais pour ça. Et c'est quand j'ai eu ma fille que tout d'un coup, je me suis gavée de Disney en me disant, ça y est, maintenant j'ai le droit.
C'est génial, c'est une super histoire. Voilà le retour de la lentille verte du puits avec vous, François Gagnère, chef d'Anicia à Paris. On est bien content que vous soyez avec nous. Alors, en trois états, hein, donc déjà en caviar, on va parler de ça parce que déjà, à l'œil, c'est bluffant. Hein.
Oui, mais parce que c'est un peu d'humour. Chez nous, on appelle la lentille le caviar du pauvre. C'est pour ça que je me suis dit, on va essayer de la mettre en scène comme du caviar, mais sur un esprit beaucoup plus iodé, plus maritime. Donc dessous, vous verrez, il faut creuser. Vous avez un émietté de tourteau lié de mascarpone.
Ah ouais, oh là
gingembre,
là.
Citron vert.
Ah oui, alors c'est pas juste comme ça. Hein.
Ah non, c'est pas pour faire de la figuration. Hein.
On est
pas
là... avec quelques blinis.
Oh,
magnifique.
Oh là là, là là.
Ah oui, du tourteau.
Et...
Oh,
c'est... Oui, non, c'est beau. Ça a l'air dingue.
Mais on vous mettra la photo sur europe1.fr. C'est vrai que c'est bluffant parce qu'à l'œil, on a vraiment l'impression d'avoir de gros grains de caviar. Il y a une gelée tout autour qui peut ressembler effectivement...
C'est une gelée de crustacés. C'est une gelée de crabe, en fait, dessus.
C'est bon, hein.
Voilà. Pas mal, ça part bien, ça. Ah
ouais,
hein.
Ça, c'est très, 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 très bon. Hein.
Une cuillère, regardez. Oh là là.
Mais quelle bonne idée.
Il faut le manger bien frais, voilà, comme ça.
C'est la terre et la mer, en plus, là.
C'est exactement. On est beaucoup sur les contrastes, comme ça.
Ouais. Et alors, délice. Alors voilà, ça, pareil, on va jouer là à détourner un classique de la cuisine méditerranéenne.
Exactement. Voilà. Alors, on a mis un peu d'huile d'olive parce que nous, on se situe sur le midi de l'Auvergne, le département de la Haute-Loire. C'est ce qu'on appelle aussi le midi de l'Auvergne. Donc, on est proche de l'huile d'olive, mais on est aussi côté beurre. Donc là, l'huile d'olive et un petit peu de citron dedans, de pulpe de citron, un peu de cumin, évidemment, quelques autres épices.
Et de la lentille. Voilà. C'est génial. Donc, le houmous, habituellement.
Là, c'est du pain au foin du maisin.
Ouais. Du point. Alors attendez, parce que faut qu'on s'arrête sur tout ça quand même.
Le foin.
Lentille verte du puits transformée en houmous. Habituellement, c'est le pois chiche qu'on transforme en houmous. Les deux d'ailleurs sont des légumineuses et il faut en parler à nos auditeurs parce que ça c'est l'avenir de l'homme aussi, la légumineuse et de la planète. Hein.
Ouais, complètement.
Protéines végétales.
Ouais. Ah.
Et ce pain
extraordinaire.
Pain au foin. Alors racontez-nous ça.
Ben, on est sur une terre très riche en Haute-Loire et en Auvergne d'une manière générale. Donc, on a un foin particulier. Mmh. C'est le massif du Mézin. C'est la naissance de la Loire, une partie en Ardèche, une partie en Haute-Loire. Et ce foin, c'est plus de 100 plantes différentes, dont une quarantaine de plantes médicinales et surtout la cistre, qui est un fenouil sauvage.
Ah oui,
qui
anisé.
Donne ce côté anisé et qui donne une partie de l'appellation au foin gras. Mmh. Donc, on a fait le pain avec.
Et le foin, comment il intervient dans le pain? Parce qu'il n'y a pas de foin là,
dans la mie. Là, on a demandé à notre boulanger, Émile et Jules, qui sont deux garçons hyper sympathiques, qui sont dans les Yvelines, qui maîtrisent toute la filière. C'est-à-dire qu'ils font leur propre blé, la farine, sur des meules de pierre, et on leur a demandé de faire un pain spécifique où on fait infuser l'eau du levain avec le foin.
Ah, voilà, c'est le truc. Et ça, on peut le déguster chez vous, dans votre bistrot nature, Anicia, rue du Cherche Midi à Paris, dans le 6e.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. C'est la table du dimanche de Michel Bernier. Et je savais que j'avais raison de l'inviter parce qu'elle se tient bien à table. Elle fait honneur au plat avec ce caviar de lentilles. Hein, c'est beau, ça. Créé par François Gagnère, le chef du restaurant Anicia. Oui, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est le houmous. On a eu le caviar de lentilles d'abord.
Hein,
et là, on
vraiment,
est avec le houmous.
Ah non,
absolument.
Mais là, alors là, David, il faut goûter. Hein, ça, c'est...
Alors, on va vous présenter David qui arrive. David Comette. C'est lui qui est à l'origine du film pour lequel vous venez nous voir, Les Folies Fermières, qui sort la semaine prochaine. C'est tourné en Auvergne. Vous êtes à l'affiche des Folies Fermières. C'est l'histoire d'un agriculteur qui transforme sa ferme en cabaret. Une histoire vraie que l'on doit à vous, David Comette. Bonjour, David.
Bonjour.
Alors, c'est pas un accent du Cantal, ça?
Ah, ça, c'est l'accent du Sud.
Vous êtes du Tarn, vous, c'est ça?
Du Tarn, exactement. Hein, à 25 minutes de Toulouse.
Voilà. Alors, moi, je trouve votre histoire incroyable, fantastique. Quel chemin parcouru, parce qu'aujourd'hui, avec le succès du cabaret et la sortie du film, l'humeur est à la fête. Mais ce n'était pas le cas au début quand même dans votre histoire. On va rappeler cette histoire. Vous, paysan, éleveur, dans le Tarn, vous étiez aussi enseignant dans un lycée agricole.
Hein, tout à fait.
Et vous n'aviez pas envie de voir péricliter et disparaître cette exploitation familiale.
Il y avait un double objectif, c'est-à-dire que déjà, c'était le dernier élevage de la famille, parce que moi, je suis la quatrième génération. Et ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père ont toujours fait une agriculture de polyculture-élevage. Et moi, j'arrivais sur la ferme à ce moment-là, en tant que quatrième génération, et on ne trouvait pas de solution pour sauver cette ferme. Mes parents étaient en train de commencer à vendre le cheptel. Et là, ça m'a vraiment fait mal au ventre. Et d'autant plus que cet élevage était devenu, au fil des années, le dernier élevage qui restait dans notre commune rurale. Et c'est là que c'est dramatique. Parce qu'en fait, on a vu tous les éleveurs disparaître les uns après les autres et que personne ne trouvait de solution pour sauver l'élevage dans notre commune rurale.
Alors, il faut le dire, hein, Michel et David, depuis 2010, 27 fermes disparaissent chaque jour en France, dont un tiers en élevage. Parlons du suicide des agriculteurs aussi. Plus de 350 agriculteurs se suicident chaque année. C'est presque un agriculteur par jour. Donc, c'est terrible, ces chiffres.
C'est ce qui est malheureux et c'est là-dessus où c'est que vraiment, moi, j'ai voulu essayer d'inverser la courbe. Voilà, c'est vraiment inverser cette courbe parce que moi, je pense que le monde agricole est un des plus beaux métiers au monde. C'est ceux qui vous nourrissent matin, midi et soir. Et je pense que là, vous voyez, vous en avez la preuve devant vous. Et ces produits-là, ils ont vraiment assez d'importance pour qu'on se batte corps et âme pour les défendre.
Ce que je voudrais qu'on raconte dans votre histoire, David Comette, c'est qu'au départ, vous êtes un petit peu comme Astérix. Hein. Vous y allez, c'est Don Quichotte. Hein. Vous êtes tout seul. L'administration n'a pas voulu vous aider parce qu'encore une fois, vous ne rentriez dans aucune case. Vous avez voulu transformer votre ferme en cabaret pour diversifier justement votre cheptel et votre travail.
C'est-à-dire qu'on répond à plusieurs problématiques en voulant apporter un cabaret au milieu d'une ferme. Déjà, on va permettre d'offrir une offre culturelle en zone rurale, ce qui aujourd'hui n'existe nulle part ailleurs. Il faut bien le prendre en considération parce que des cabarets, c'est la ville. Voilà. Et donc, moi, j'ai voulu marier un peu l'impossible, la culture et l'agriculture. C'est-à-dire que pour moi, les produits des terroirs ont vraiment le droit et intérêt à aller aussi dans la ville, voilà, que tout le monde puisse en manger. Mais à contrario, la culture peut aussi venir en zone agricole. Vous voyez.
Ça marche souvent que dans un sens. Hein.
Oui, ouais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et puis, on est quand même assez envahi d'administratifs. On a laissé des pionniers, parce qu'avant, c'était des pionniers, tous ceux qui ont fait des choses un peu extravagantes. On parlait de mon père avant, etc. Mais c'était possible parce qu'on n'était pas dans cette espèce de world company, là, complètement figé. Et donc, effectivement, le courage de David, ça a été de le faire quand même. C'est-à-dire qu'à force, on finit par convaincre les personnes et on y va, quitte à faire les sacrifices. Mais ça demande toujours des sacrifices. Et aujourd'hui, je suppose que pour beaucoup d'agriculteurs, que moi je côtoie un petit peu dans ma Meuse, je dirais, natale, c'est que effectivement, on a demandé tout d'un coup aux agriculteurs d'être des comptables, des gens qui savaient servir des ordinateurs. Je veux dire, moi qui, enfin, enfant, je vais pas faire, c'était mieux avant, mais enfant, on allait à la ferme chercher le lait, et puis la fermière, elle vous servait dans le pot à lait, puis on partait avec le lait, on n'était pas malade. Hein.
Il y avait une simplicité. Voilà.
La simplicité. Et puis vers 14-15 ans, ça a commencé. Ah ben non, on peut plus te le vendre, on peut plus te le mettre le lait dans ton pot parce que maintenant il y a des produits, parce qu'il faut pas que, etc., etc. Et moi, je voyais tous ces gens devenir coincés dans un truc vraiment. Tellement,
un monde hygiéniste.
Tellement hygiéniste que toute la saveur partait, quoi. Oui, et que vrai. Même les gens du coin n'osaient même plus aller acheter des œufs parce qu'on ne sait jamais, le lait parce qu'on ne sait jamais. Et on a fini par créer
on introduit de la méfiance,
des freins, ouais. Absolument.
C'est ça. Comment elle est venue l'idée de transformer cette ferme en cabaret, racontez-nous.
Juste pour rebondir sur ce qu'a dit, parce que c'est quand même un moment très particulier du monde agricole, il y a ce côté où c'est qu'on a perdu la relation avec les consommateurs à ce moment-là déjà, comme elle le dit très justement Michel. Mais en plus de ça, c'est là où c'est que c'est, pour moi, c'est en arriver à toucher une certaine limite d'agriculture. Moi, mon grand-père qui lui avait connu, il est arrivé d'Italie dans les années 1950, à l'après-guerre, qui a connu la misère, à un moment donné, il s'est vu imposer des quotas laitiers. Vous savez que du moment qu'on dépassait le quota, on était hors jeu. Et quand on était hors jeu, ça veut dire que le lait, en fait, on ne pouvait rien en faire d'autre que de le jeter. Quand
je l'ai j'ai vu ça, moi, j'ai vu des tanks à lait qu'on vidait dans les égouts
horrible.
Des villages.
Hein. Bien d'accord, voilà. Et à ce moment-là, quand il a dû vider du lait dans la fosse à lisier, il n'en a pas dormi de la nuit, hein, lui qui avait connu la misère. Et là, il m'a dit, là, David, on touche une des limites de l'agriculture. J'espère qu'on va arriver à le corriger. Et malheureusement, c'est qu'au fil du temps, ces problèmes-là n'ont pas toujours été corrigés.
Et le problème, c'est que de nombreux paysans, et ils le savent, hein, ceux qui nous écoutent, ils ont du mal à vivre de leur propre métier. Heureusement qu'il y a des subventions européennes, mais pour ça, il faut aussi qu'ils puissent se diversifier. C'est grâce à ça qu'ils peuvent vraiment vivre de leur métier. Exactement. La diversification, c'est les produits transformés, c'est les circuits courts, les ventes à la ferme et le cabaret pour vous.
Et ça, c'est l'innovation. En plus de la diversification, moi, j'ai rajouté l'innovation, c'est-à-dire j'ai voulu aller encore plus loin dans la démarche parce que je me suis dit, aujourd'hui, c'est bien de valoriser dans le panier de la ménagère, mais quand on le met dans l'assiette, c'est quand même le spectacle dans l'assiette parce que c'est un repas aux produits du terroir qui est servi par les producteurs en personne.
Et sur scène, qu'est-ce qu'on voyait alors? Racontez-nous les premiers spectacles, parce que moi, j'y étais pas et j'ai envie de voir ça. Ça ressemblait à quoi, les premiers spectacles?
Alors, les tout premiers spectacles, mais pour arriver à trouver des artistes à la campagne, vous savez, c'est pas facile. Donc, ça a été le club de country du village d'à côté. Ouais. Ça a été le club de gymnastique du village d'à côté. Et après, on a eu la chance d'avoir le sosie de Claude François, qui habitait dans un village à côté, Alan, qui a tourné dans le film Podium, vous voyez. Et là, quand on a fait une soirée avec Claude François à la ferme, vous imaginez le succès qu'on a eu.
Ah ben, dingue, évidemment. Dingue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir sur scène alors, chez
alors, aujourd'hui, on voit des danseuses, des chanteurs, des magiciens et on voit aussi des ventriloques, vous voyez. On a aussi un pole dancer, vous voyez, masculin. Alors là,
ça change.
Ça change un petit
peu. Un vrai cabaret.
Ça me donne envie d'aller dans le
tas. Ah, tiens. On donne l'adresse, tu as des folies fermières, les vraies.
Alors, Maziès, c'est le lieu dit Maziès, 81-500 Garrigues. Ça se situe entre Toulouse et Albi, exactement.
Voilà. Et ben voilà. Alors lui, il ne fait pas de la pole dance, mais il écrit dans le Figaro, c'est Emmanuel Rubin.
En même temps, on ne sait pas comment il écrit non plus. Hein.
Bonjour Emmanuel Rubin.
Bonjour. Enchanté.
Bonjour. Hein, vous avez un nouveau métier, pôle danseur homme.
Ouais, dans... Pas pour moi, ça. Alors, je suis au Figaro quand même.
Mais oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, racontez-nous, parce que les folies fermières, cette histoire de cabaret de David Comet, ça vous inspire hein, pour votre première chronique.
Je vous remercie à tous, Michel, David, de m'avoir tendu la perche ou la fourche. Parce que, effectivement, la folie fermière, c'est le cabaret des champs. Mais moi, en bon parisien, en fils de bitume, je vais parler du vrai, le cabaret des villes, le cabaret parisien, monsieur, le cabaret de Paris, je vous raconte son histoire. Et c'est vrai que ça a beaucoup à voir avec le restaurant, on dit même que c'est le précurseur du restaurant.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Je crois que je n'ai jamais mangé un truc pareil. Ah, je suis mais archi fan.
Michel Bernier se met à table jusqu'à midi et demi. Si vous avez raté le début, mangez tranquillement, j'ai des trucs à dire, Michel. Si vous avez raté le début, vous le retrouverez en vous abonnant au podcast hein, sur europe1.fr. David Comet nous a rejoint, il a inspiré le film Les Folies Fermières, on le disait, après avoir monté son cabaret dans sa ferme dans le Tarn. Et puis Didier Van Kovelaert va nous retrouver avec son dernier roman, Une vraie mère ou presque. Alors là aussi, c'est une drôle d'histoire inspirée de sa propre mère et de sa propre famille, on en parlera tout à l'heure. Et vous, Michel Bernier, vous jouez la mère de famille d'Alban Ivanov, hein, qui interprète votre rôle, David Comet, dans le film Les Folies Fermières, qui sort mercredi prochain. François Gagnère nous régale donc avec ce caviar de lentilles. Hein, je vous le dis, si vous venez d'arriver sur Europe 1, caviar de lentilles terre-mer avec du tourteau, du pain au foin et en plat du jour. Qu'est-ce qu'on va manger? Racontez-nous, François Gagnère.
On est en train de finir, là. La cuisson se termine sur l'agneau de 7 heures, un gigot d'agneau. Donc on a fait revenir avec une petite garniture aromatique bien saisie. On a mouillé, vin blanc. Puis on a mouillé avec un petit peu de fond, si on avait. Ou alors on prend un peu de poudre si on n'a pas. Mais sinon, avec quelques tomates, on fait une garniture un peu plus riche. Et on laisse cuire tout ça pendant toute une nuit, tranquillement à 110 degrés, au
mais
four,
déjà,
c'est
moi,
bien.
Moi, ça m'angoisserait. Hein. Toute la nuit, je penserais à mon plat.
Oui, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui n'osent pas à cause de ça, c'est vrai. Hein.
Oui, mais puis après, c'est fondant, on le ramasse à la cuillère.
Bien sûr, mais c'est merveilleux.
David Comet, on le disait, vous avez cette idée pour sauver l'exploitation familiale, donc vous êtes diversifié avec ce cabaret, mais vous êtes allé plus loin encore, parce qu'il y a même un rayon boucherie maintenant, on parle du gigot, on peut acheter de la viande chez vous.
Tout à fait, voilà, ça c'était un regroupement qu'on a fait avec tous les producteurs locaux pour justement monter ce qu'on appelle une boutique des producteurs. Aujourd'hui, on est 40 producteurs partenaires et donc ça fonctionne très bien. Ils sont à peu près dans le Tarn, Haute-Garonne, vraiment dans un rayon de 50 km. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que du coup, comme vous le verrez tout à l'heure, en fait, on est allé tourner ce film dans le Cantal. Donc en fait, on a pu voir vraiment tous les produits du Cantal. Et aujourd'hui, ces personnes du Cantal sont tellement fortes qu'ils ont réussi à me faire proposer du Cantal et de la légendaire directement sur la table du cabaret.
Vous en parlez naturellement, mais la légendaire, c'est quoi? Faut expliquer, parce qu'on fait du vin en Auvergne, alors.
Mais bien sûr qu'on fait du vin en Auvergne, on fait des très bons vins, que ce soit des vins blancs, principalement avec du chardonnay, ou évidemment des rouges aussi.
Et puis, est-ce qu'on peut défendre aussi, c'est le travail de chef, justement, comme François Gagnère, qui font monter ses produits et ses producteurs à la capitale, par exemple, et qui leur donne aussi une belle exposition. Exactement. Le chef, il est là aussi, c'est un ambassadeur.
Hein. Je dirais un magicien même, parce que c'est lui qui transforme...
Au cabaret.
Voilà, c'est lui qui transforme ce produit pour ensuite le mettre sur la table. Et je le remercie personnellement au nom de tous les producteurs que je représente.
Moi, j'attache beaucoup d'importance à mes producteurs. J'ai énormément de respect pour eux, parce que sans eux, on ne fait rien. On fait rien.
Et nous, sans vous, on ne fait rien non plus. Excusez-moi, mais
c'est un échange.
On va les laisser tous les deux. Oui, on va les retrouver, voilà. Emmanuel Rubin. Merci David Comet d'être venu à la table du dimanche. Restez dans le coin quand même. Hein.
Vous inquiétez pas.
C'est un au revoir de radio, comme on dit. On va retrouver Emmanuel Rubin et on se retrouve dans un instant. Emmanuel Rubin à table. Installez-vous, cher Michel. Et en attendant Didier Van Kovelaert, on se retrouve à table avec vous, cher Emmanuel Rubin. Alors c'est vrai, je le disais, hein, le cabaret vous inspire. Et là, on sort du cabaret, effectivement, de la campagne et du monde rural pour aller vers le cabaret parisien.
Oui, il a une longue histoire en vérité, parce que le cabaret, dit-on, est français, mais en vérité, sous la même appellation, il existe des cabarets polonais, allemands, anglais, voire même américains. Mais il reste très français parce qu'avant le cabaret, il y a déjà un cabaret et ce cabaret-là est le précurseur de notre restaurant. Alors je m'explique. Et pour bien comprendre, on va renvoyer à l'étymologie. Le mot cabaret viendrait du wallon, du picard, voire de l'ottoman et du turc. C'est tout à la fois le cabaret ou le cabaret. À chaque fois, cela nous renvoie soit à une petite chambre, soit à un débit de boisson, soit à un lieu de perdition, voire à la limite de la prostitution. En tout cas, le genre, il apparaît en France vers le 15e siècle et jusqu'au début du 19e siècle. Un cabaret, c'est tout à la fois un lieu autorisé soit à livrer de la boisson, soit à offrir à boire et à manger, soit à offrir à boire, à manger et à dormir. Et donc, c'est vraiment le précurseur du restaurant.
Et le cabaret spectacle, lui, quand est-ce qu'il fait son apparition?
À votre avis, il y a un lieu, une date bénie quand même dans notre histoire, c'est la fameuse et la bien nommée Belle Époque. La Belle Époque, ça court de la fin du 19e jusqu'à 1914. C'est très précis parce que c'est en même temps que s'éveille le progrès social, la révolution industrielle française. Et en même temps qu'il y a cette révolution industrielle, il y a une manière de libération des mœurs. Et le cabaret va muter, c'est bien sûr Paris. David évoquait tout à l'heure l'attachement à son territoire et au terroir. Je suis désolé, il y a un terroir Parigot, il y a un territoire de Titi. Et c'est Paris qui s'y colle. Et c'est vrai que l'on va voir apparaître, on les appelle d'ailleurs parfois les cafés-concerts, on voit apparaître de Pigalle à Montmartre tout un tas de lieux qui fleurissent. Et ces lieux, ils vont ajouter au verre et à l'assiette ce qu'on appelle le spectacle. Et là, on va découvrir ce que racontait très bien et ce que raconte le film. À l'origine, des chansons, des comiques troupiers, des numéros de clowns, de cirque, des magies, on est assez simple dans le spectacle. Mais c'est vrai que ça va faire spirale, le succès va être fou, pour une grande raison. c'est d'abord le génie de brasser. Alors, on y brasse tout à la fois le restaurant et le spectacle, mais on y brasse surtout les générations et les catégories sociales.
Ah pour bah la oui, première fois... Dire, c'est populaire.
C'est ça, ouais, on se mélange
oui.
aussi.
Oui, populaire, mais c'est, l'intérêt, c'est que les riches vont fréquenter les bourgeois et le populo va découvrir la bohème. Alors, il y a deux adresses cultes à ce moment-là. C'est le Chat Noir, qui a été porté par un personnage truculent, on pourrait en faire un film, c'est Aristide Bruand, oui. avec la fameuse chanson Le Chat Noir. Et puis, l'autre adresse, eh bien, je crois que ça, vous l'avez un peu détourné, c'est les fameuses Folies Bergères.
Voilà. Ah, voilà, c'est pas les Folies Fermières
du Cantal. C'est un véritable parfum de liberté qu'on va trouver à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce ne sera pas sans inquiéter les autorités.
Et le Moulin Rouge, d'ailleurs, a une place à part aussi hein, dans le monde
totalement
des cabarets.
Totalement à part. Le Moulin Rouge, il est au pied de la butte de Montmartre en 1889. C'est vrai qu'il va bousculer les codes avec l'arrivée du fameux French Cancan. Et le French Cancan, c'est une véritable révolution. On a même pu dire que cette danse était très évocatrice, bien sûr, mais certains ont pu parler d'actes féministes avant l'heure. Et c'est vrai que plus d'une fois, l'affaire sera de droit de l'interdiction.
Hein et qu'est-ce qu'on y mangeait, tiens, puisqu'on est à table, qu'est-ce qu'on y mangeait dans ces cabarets?
Alors, très sincèrement, on va dire la vérité, on y mangeait très mal. Mais pour une raison simple, c'est que...
Franchement, c'est souvent encore le cas. Hein.
C'est vrai, alors, c'est vrai.
Peut-être un peu moins maintenant.
À l'exception du Moulin Rouge.
Ah, il faut un effort.
Longtemps, depuis quelques années, il y a un chef, il vient de partir, qui s'appelle... c'est le mari de Stéphanie Le Quellec,
oui,
qui a vraiment fait un progrès. Mais on y mangeait très mal. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, lorsque deux égaux se rencontrent, il y en a toujours un qui l'emporte. Là, vous ne savez très bien si c'est le théâtre qui infuse dans le restaurant ou l'inverse.
Oui.
Et à ce petit jeu, c'est les planches qui l'emportent sur la table. Mais il faut dire que c'est compliqué aussi un cabaret. C'est un marathon de couverts, c'est un marathon. Je crois que c'est 350 000 bouteilles de champagne
c'est de la folie.
Servies
c'est de
à
la
l'année
folie.
Au Moulin Rouge.
C'est de la folie.
Donc,
c'est de la folie.
On y mange mal, mais pour les défendre, ils cultivent un goût. À nul autre pareil, c'est le goût de la fête.
Ah, bon, on restera sur ça.
Oui,
c'est
bravo.
Comme un chat, Emmanuel Rubin, il retombe toujours sur ses pattes.
Ses pattes.
Hein. Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire, c'est toujours la table du dimanche de Michel Bernier. Vous êtes venu nous voir donc avec ce film Les Folies Fermières, mercredi au cinéma. L'histoire d'un agriculteur qui, pour sauver sa ferme, va la transformer en cabaret. On en parlait avec David Comette, qui était avec nous il y a quelques instants et qui a vraiment été à l'origine de cette histoire. Et revenons tiens, aussi à ce monde agricole. On parlait de votre papa tout à l'heure. Vous passez du temps dans la Meuse. Voilà, ce sont des valeurs qui vous sont chères. Le monde rural, la campagne. Votre père, il était presque un peu écolo avant l'heure. Hein.
Ah, mais totalement. Lui, par exemple, quand il a vu arriver le plastique, les bouteilles en plastique, ça l'a tout de suite rendu fou. Donc, il ne voulait que des bouteilles en verre. Après, il était... il faisait très attention à tout ce qu'il mangeait. Il n'achetait pas n'importe quoi. Il achetait, par exemple, ses pâtes. Il n'achetait que des pâtes qui étaient faites dans les machines qui sont
En bronze, peut-être.
En bronze, oui, voilà. Il regardait sur le paquet, c'était bien marqué en bronze. Et s'il voyait que ce n'était pas ça, il ne l'achetait pas. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'assez psychorigide, on va dire, même là-dessus. Parce qu'avec maman, des fois, on se dit, oh, ça va, c'est bon, on ne va pas nous saouler. Et en fait, par exemple, c'est la saison. On parle aujourd'hui beaucoup. On revient sur qu'est-ce qu'on mange, telle saison, etc. Moi, je me rappelle, gamine, j'en ai un pou et puis des asperges, quoi. Il y a un moment, parce que papa,
on en plein dedans.
C'était l'époque des asperges, on en bouffait mitigé.
Ben, il a raison, on suit les saisons.
Mais bien sûr, alors après, évidemment, on veut de tout le temps. En fait, on a créé une société d'enfants gâtés, entre guillemets.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on veut tout en permanence, comme si la nature, la vie faisait ça, tout était en permanence. Et donc, ça a un peu, évidemment, modifié notre façon de manger et notre façon de produire. Mais c'est vrai que les saisons, moi, je me rappelle, papa, c'était déjà son truc. Il aimait vivre à ces rythmes-là.
Mais bien sûr, et la nature est là aussi pour diversifier naturellement notre alimentation, Emmanuel Rubin.
Enfin, il n'empêche que quand tu feuillettes les anciens harakiri, il y a un livre de cuisine à publier aujourd'hui avec les recettes d'Arakiri, c'est plus que surréaliste, c'est carrément d'Allah. Moi, je trouve qu'il faudrait faire un bouquin.
Allez, c'est l'heure d'accueillir un auteur à cette table. Il vient de publier Une vraie mère ou presque chez Albin Michel, une histoire touchante et originelle qui met en scène le décès de sa propre maman. C'est Didier Van Kovelaert qui vient nous retrouver à la table du dimanche. Il est là, il est en train de grignoter, c'est qu'il est bien reçu. Bonjour Didier.
Oui, j'arrive là.
Bonjour
pleine.
Didier.
C'est bien,
ça va bien.
Vous êtes au bon endroit, vous connaissez?
Ah, oui, on s'est croisés bien souvent. Oui. Alors, vous êtes quoi sur le houmous là?
Oui, et le pain au foin.
Ah, c'est dingue,
découverte.
Ça.
Incroyable. Hein. Vous venez nous voir, Didier von Kovelaert, avec votre roman que je viens de finir, Une vraie mère, ou presque. Je suis bien content parce que un de mes romans préférés, c'était un des vôtres, qui s'appelle Le père adopté, où vous avez raconté l'histoire de votre papa. On va en parler parce que vous avez tous les deux des pères quand même hors du commun, quand même. Hein. Il faut bien le dire.
On était gâtés.
On a eu cette chance. Hein,
mais c'est vrai que voilà, et ça construit des tempéraments pour l'existence. Ça. Et là, vous venez nous voir donc avec... Une vraie mère, ou presque. Alors, je vais lire la quatrième de couverture, qui est un passage du livre, comme ça on va tout de suite se rendre compte de quoi il s'agit. « En 3 mois, ma mère a perdu 11 points. Elle n'a jamais conduit aussi mal que depuis qu'elle est morte. Il faut dire que j'ai laissé la carte grise à son nom et j'ai l'excès de vitesse facile. Mais voilà qu'un jour, une lettre de la préfecture la convoque à un stage de récupération de points. C'est alors que Lucie Castagnol, bouillonnant de comédienne à la retraite, se jette sur moi avec la ferme intention d'interpréter le rôle de la disparue. » C'est génial, c'est troublant parce que, pour reprendre une métaphore viticole, on est entre deux mères, là.
Oui, exactement.
Vous le dites, d'ailleurs.
Joli. Bravo.
Non, mais c'est lui qui le dit.
C'est l'entre-deux-mères.
Je lui ai piqué.
Il ne fallait pas le dire. Il faut toujours piquer sans le dire.
Il le dit dans le roman.
Oui, c'est pas un hasard si le théâtre, qui est une de mes passions, comme vous, initiale, permet, pour cette histoire, de remettre en vie... Mais pas uniquement sur les planches, pas uniquement une comédienne qui va jouer le rôle. Là, c'est l'incarnation dans la vie, c'est l'usurpation d'identité.
Complètement.
C'est tout le professionnalisme que va mettre une comédienne, surtout à la retraite, en fin de course, qui fait du stand-up dans les maisons de retraite, là, au départ. Et c'est là, c'est le rôle de sa vie, c'est son ultime création.
Elle va habiter dans l'appartement de votre mère, elle va mettre son parfum, elle va vous parler en vous disant mon lapin, comme vous disait votre mère.
C'est-à-dire ce besoin, et ça, les comédiens le savent bien, d'entendre la vérité du personnage. Et à un moment donné, quand cette vérité, vraiment, on l'a construite par le costume, par le phrasé, par tous ces petits détails, et là... On est habité de plus en plus jusqu'à être possédé parfois.
Il y a une genre de schizophrénie là-dedans, un peu, d'aimer être les deux, de pouvoir quitter l'un pour le retrouver. C'est très bizarre, hein. Quand on fait ces métiers, c'est très curieux parce qu'il y a des personnages qu'on aime et puis des personnages pour lesquels on a un peu de doute.
Voilà.
Et c'est toujours plus compliqué. Donc c'est pour ça que les metteurs en scène, les réalisateurs servent à quelque chose pour les acteurs. C'est que ça vous aide aussi à appréhender un personnage et tout d'un coup lui donner les couleurs que peut-être on ne lui aurait pas donné au départ.
Et là, en plus, comme on est dans la vie, et là, elle demande au narrateur, donc au fils, elle dit, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je dois me corriger? Et en même temps, il doit lui donner la réplique et elle lui demande de le diriger. Et lui se retrouve dépassé parce qu'au début, c'est juste une session pour rattraper les permis de points où elle doit jouer ce rôle. Mais non, elle dit que pour vraiment être juste, elle doit s'imprégner du décor. Tout ça, même la mère est une cuisinière extraordinaire. Et là, Lucie, qui n'a jamais cuisiné, à part rien, réchauffer du Picard, tout à coup...
Beignet de fleurs de courge au coulis de tomates. Voilà, il y a la tarte au citron aussi.
Citron meringuée, la vraie meringue.
La fameuse tourte aux blettes. La fameuse tourte aux blettes au pignon. Les rognons flambés sauce madère. On cuisine et on déjeune dans votre roman.
Ah oui, on est souvent à table et c'est souvent une catastrophe. Enfin, au départ avec elle, mais elle veut tout faire bien. Et à un moment donné, au début, c'est une catastrophe. Et puis après, la deuxième fois, il va être complètement bluffé. Il retrouve tout. C'est-à-dire que sa mère reprend vie à travers les plats que sa doublure a réussi. Et il voit dans la poubelle, il y a les brouillons de ses plats. Elle a passé toute la nuit parce qu'elle s'est installée à la table que l'incruste vraiment dans l'appartement.
Mais c'est troublant, hein, c'est troublant. Comment elle est venue, cette idée de roman, là?
À la différence de ce qui s'était passé à la mort de mon père, où j'ai écrit Le père adopté, qui n'est pas du tout romancé, j'ai juste imaginé un peu avant ma naissance quelques zones d'ombre, interprété certains silences, mais sinon... C'était, voilà, comme le professeur Choron, des personnages tellement romanesques en eux-mêmes, tellement bouillonnants
qu'elle
les mettre dans la marmite.
Des personnages de film, votre père avocat flamboyant, un peu usurpateur sur certains trucs au niveau de « je me raconte des petites histoires », et puis votre père qu'on connaît, le professeur Choron, avec son nos limites, quoi.
Et à la fois des extravagants et des rigoureux. Mais là, pour ma mère, c'était plus compliqué, parce qu'évidemment, moi, j'avais tout... calqué sur lui, j'avais pris son humour, son inventivité, son côté casse-cou, et ma mère, je l'avais laissé un petit peu dans son ombre, d'autant plus qu'elle avait joué le rôle nécessaire de contre-feu, de garde-fou. Mais quand on est relégué dans l'ombre, au bout d'un moment, pour une fois qu'on n'est plus là, après son départ, j'ai voulu vraiment lui redonner ses vraies couleurs. Et là, j'ai eu besoin d'un décalage romanesque. Et l'idée m'est venue un jour, mais vraiment au volant, grâce à un flash de radar.
Parce que quoi
oui, j'avais gardé sa voiture, oui. Parce qu'elle me demandait de la faire rouler. Et donc là, vraiment, l'idée m'est venue.
Ça doit être perturbant, quand même, de faire revivre de cette
Alors,
manière-là.
Ça, non, ça, ça, vous a été, pas un... ça a été très joyeux. Je pensais autant... de manière tout à fait basique, beaucoup de peine, de douleur à la perdre. Quoique, elle s'est arrangée, là encore, c'est des cadeaux merveilleux que nous font les gens qu'on aime, lorsque le départ est associé à quelque chose qui, lorsque les gens vont vous parler d'eux, va les faire sourire, va les faire rire. Et c'est un cadeau merveilleux, quand je leur dis, ah, ta mère, y compris le fou rire nerveux Bien qui, voilà, j'ai un peu transposé dans le roman, mais...
Avec des petits mots que vous retrouvez, des choses comme ça aussi. Enfin, voilà,
bah, toutes les traces qu'on retrouve, le puzzle qui se réassemble, mais surtout l'énergie de cette comédienne qui est prête à tout pour, en plus, cette femme qui n'a pas eu d'enfant dans la vie, qui incarne un rôle de mère, donc c'est son ultime création, et elle va permettre... au narrateur, en fait, de redécouvrir le vrai visage de sa mère et lui permettre de lui dire des choses qu'il n'a jamais osé lui dire de son vivant, y compris « Je t'aime ».
Ça s'appelle « Une vraie mère ou presque », c'est paru chez Albin Michel. C'est le dernier roman de Didier Van Kovelaert.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et merci d'être des nôtres, si vous êtes là depuis 11h. C'est la table du dimanche de Michel Bernier. Elle est venue nous voir avec un très beau film, Les Folies Fermières, qui sort au cinéma à partir du 11 mai. Je le disais, ça fait du bien de voir Michel Bernier au cinéma, dans ce beau rôle d'une mère d'un agriculteur, agricultrice elle-même, quand on est à la ferme. On donne un coup de main, en tout cas.
Absolument,
Énorme coup de main. Et Didier Van Kovelaert nous a rejoint avec Une vraie mère ou presque aux éditions Albin Michel, au fourneau François Gagnère du restaurant Anicia à Paris, rue du Cherche-Midi. Il est en train d'ouvrir la cocotte du gigot de 7h. On vous laisse dresser et servir.
Dommage que vous n'ayez pas l'odeur avec la radio. Parce que là, ce sera la seule émission, en fait.
Je suis sûr qu'un jour, on y arrivera.
En odorama, comme il y a eu au cinéma à un moment.
Je suis sûr qu'un jour, on y arrivera, ça, avec malheureusement des molécules de synthèse. Parce que, ce beau
ça
gigot.
Ça va donner une idée à Didier Van Kovelaert, un roman.
Un agneau qui vient d'Auvergne.
Projeté dans la peau de la cocotte.
Mais vous aviez bien écrit l'histoire d'un arbre.
Oui, il aime beaucoup la nature et les arbres, Didier Van Kovelaert. Ouais. Alors là, il vient avec cette belle histoire autour de sa maman qui est interprétée par une comédienne qui joue dans des maisons de retraite et qui va endosser le rôle de sa maman décédée pour récupérer les points au permis de conduire. Avant qu'on continue de parler du roman, j'aimerais qu'on parle de votre naissance, Didier Van Kovelaert, parce que vous savez que cet homme-là en face de vous ne serait pas là sans un œuf dur. C'est qu'on doit l'existence de Didier Van Kovelaert à un œuf dur. Je raccourcis volontairement,
oui, mais
c'est
un coup de foudre provoqué par un œuf dur. Oui. Hein non, mais c'était un jour mon père, qui était au 36e dessous après un divorce douloureux, vraiment là, avec ses enfants et tout, vraiment dans une situation qu'on imagine. Il n'arrivait plus à dormir, il roulait toute la nuit. Et un jour, il se retrouve à la station de sport d'hiver à Valberg. Et puis, il va dans un. C'était l'approche des fêtes. Et il rentre dans un cabaret. Donc, et là,
comme dans les Folies Fermières,
c'était un concours, c'était Miss Gobeuse 2.
C'est génial.
Et là, c'était celle qui allait devenir ma mère, qui était l'une des candidates, qui était une jeune femme très belle, un peu style Ava Gardner, tout ça. Et première découverte de mon père, il voit cette jolie jeune femme en train de gober à la chaîne des œufs durs. Vous savez, et là, il se précipite parce qu'à un moment donné, on peut essayer de la faire cracher.
Oui, on peut étouffer, bien sûr.
Et il se fait engueuler parce qu'évidemment, ça risquait de lui coûter
son prix.
Donc, merci l'œuf dur.
Lise Gobeuse, l'œuf dur. Je trouve cette histoire géniale.
Mais moi, j'adore les histoires de rencontres parce que, par exemple, mes parents se sont rencontrés. Mon père, quand il est arrivé à Paris, il lit une petite annonce dans François et c'était marqué « Gagner 50 francs par jour, mais trop bonne nouvelle ». Et il s'est dit « Bonne nouvelle, ça peut être que mien ».
Je vais commencer
par là.
Bien sûr.
Et ma mère, donc mon père, ça faisait une semaine qu'il bossait comme vendeur de journaux dans la rue, et ma mère lit la même annonce en disant « Elle venait d'arriver à Paris, ça faisait 2-3 jours qu'elle cherchait du boulot, elle ne s'en sortait pas, etc. » Et elle voit « Bonne nouvelle ». Et donc, elle se dit, peut-être ça se tente. Génial. 50 francs par jour. Et donc, la rencontre s'est faite là. Et là, il y a un œuf dur du côté Van Kovelaar. Et chez mes parents, il y a un quartier d'orange.
Un quartier d'orange ?
Oui, parce que ma mère n'avait pas mangé depuis 3 jours et que papa avait une orange et lui a donné son quartier d'orange. Donc, comme quoi, voilà.
Alors, on est en train de dresser, je l'explique aux auditeurs, ce gigot d'agneau de 7 heures. Ce que j'aime avec cette cuisson, François Gagnère, vous qui venez de nous régaler avec ce plat, c'est que ça se déguste à la cuillère. Il est archi fondant, quoi. Hein ?
C'est souvent, on aime bien l'agneau rosé, mais c'est aussi extraordinaire comme ça en cuisson basse température et surtout longue durée. C'est fondant.
Didier Van Kovelaar, vous venez nous voir avec votre roman, Une vraie mère ou presque, le nouveau Van Kovelaar paru chez Albin Michel. Il y a un rituel pour l'écriture. Comment vous faites ? Vous êtes originaire de Nice. Là, l'histoire se passe beaucoup du côté de Nice. Vous écrivez là-bas, vous écrivez à Paris. Vous l'avez écrit où, par exemple, ce roman ?
C'est une écriture baladeuse. C'était un peu à Nice, surtout de l'imprégnation à Nice et puis dans la forêt de Rambouillet où je suis là la plupart du temps.
Les arbres, toujours les arbres.
Ouais. Et puis le rituel que j'ai, par exemple, bon, je peux travailler 10 heures, voire 15 heures par jour. Mais alors là, il faut que je ruse avec le grand piège qui est la digestion, la fatigue de la digestion.
Cette fameuse sieste.
Non, c'est-à-dire que là, j'ai trouvé quand même un découpage de la journée qui contourne ça. C'est-à-dire je commence vers 5h30, et là, c'est un thé vert, un biscuit, tout ça, et le petit déjeuner sera 2 ou 3 heures après.
C'est ça,
et
oui.
Ensuite, le but, c'est de déjeuner le plus tard possible, vers 16h, 16h30.
Ah ouais ça.
Oui, pour tenir sur cette énergie encore du matin, et après, où je vais faire du vélo, je vais me promener, où je relis dans ma tête, et après, je m'y remets. Et là, il y a des marathons comme ça, de 8 jours, et c'est là où vraiment on accouche du livre.
Vous écrivez la nuit ou pas ?
Moins, parce que très tôt le matin, je préfère. Mais quand je suis sur ma lancée, je peux continuer.
Thé vert, biscuit, écriture, vrai petit-déj, on réécrit et on déjeune vers 16h. Emmanuel Rubin.
Non, mais ça fait des années que je lis les bouquins de Van Kovelaar, mais celui-ci, non. En revanche, je sais que vous avez une passion pour Romain Gary.
Ouais.
Vous êtes de Nice. Romain Gary et sa mère, on connaît leur relation. Alors moi, je suis très content, et je vais lire avec beaucoup de volupté, le premier livre sur sa mère de Van Kovelaar qu'on attendait vraiment.
Oui, et puis elle aussi, d'ailleurs, de son vivant, disait... Oui. Elle me balançait de manière épisodique. Mais mes amis ne comprennent pas pourquoi tu n'écris rien sur moi.
Oui. Bon, comme ça. Mais vous le dites.
Elle redevenait un peu la mère de Romain Gary.
Mais c'était, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que Romain Gary était un camarade de mon père au lycée. Et il s'était fâché pour des histoires de concours de ping-pong et de tennis.
Fantastique. Fâché avec Romain Gary parce que je lui ai mis une tôle au ping-pong.
Et quand je l'ai, moi, après l'avoir tant lu, en arrivant à Paris pour la publication de mon premier livre, je l'ai rencontré une fois, il m'a parlé que de mon père. Et ça, c'était magique, parce qu'il me racontait des conneries qu'ils faisaient ensemble. C'était... merci
Non, mais c'est vrai que c'est...
avoir parlé de lui. Mais...
Non, mais on attend vous avez fait le livre sur votre père, mais en plus... Le rapport des écrivains du Sud, niçois, de la Côte d'Azur à leur mère, Marcel Pagnol avec Albert Cohen, ils ont tous écrit sur leur mère. On attendait que Van Kovelaar s'y colle.
C'est vrai que c'est mon père qui joue un peu le rôle de la mère de Gary.
Le
côté vraiment qu'il imaginait sans problème, écrivain précoce, tous les succès, tout. Tandis que ma mère, elle freinait, les quatre frères, en disant non.
Vous
d'abord
dites,
un vrai métier, oui.
Oui, c'est ça.
Avant de penser vivre de sa plume.
C'est ça.
Et je lui ai donné tort, et après, elle m'a félicité publiquement de lui avoir donné tort. Après.
Mais vous le dites dans ce roman, d'ailleurs, à un moment, elle est jalouse que vous ayez déjà commis un livre sur votre père. Hein. Elle était écrit sur mon...
Oui, c'est-à-dire que là, tout à coup, elle dit, et moi alors ? Et le fait, en plus, elle dit, tu attends vraiment que je sois morte pour me priver de mon succès.
Vos deux pères ne se sont jamais rencontrés, professeur Choron et votre père ?
Je ne crois pas, non.
C'est
non.
Ça, parce
non.
que c'était non. quand même deux personnages qui vivaient à la même époque.
Alors le problème, des fois, c'est que faire croiser deux solistes...
Oui, ça peut s'annuler.
Il peut y avoir des couacs.
Il peut y avoir des trucs dangereux.
Ça peut s'annuler. Mais j'ai le souvenir de votre père, Michel Bernier. C'est un de mes derniers souvenirs, le professeur Choron. J'étais dans un restaurant en bas des Champs-Élysées. Il avait un journal qu'il vendait à la fin.
La Mouise.
La Mouise, voilà. La Mouise, qu'il vendait lui-même dans les restaurants. Et il était capable d'aller très, très loin pour qu'on lui achète le journal.
Hein. Encore.
Je ne peux pas tout raconter parce qu'on est à table.
Voilà.
Mais il pouvait aller très, très loin. Et je peux vous dire que tout le restaurant achetait le journal du professeur
Choron. Mais même à une époque, il y avait quelques restaurateurs qui acceptaient qu'il y ait un Lubrius comme mon père. Mais il y en avait qui ne l'acceptaient pas.
Oui,
donc, c'est vrai que Place Maubert, il y avait le Dodin Bouffant, pour ceux qui s'en rappellent.
Ah, C'est une belle adresse.
Qui était une adresse très géniale. Et Jacques Manière, qui était le grand chef de ce restaurant, il adorait mon père et il le laissait faire tout ce qu'il voulait.
Bien sûr,
moi, je me souviens de Mitterrand mangeant au fond et papa déconnant à mort.
Et Jacques Manière, Dodin Bouffant, qui est une adresse mythique parisienne, mais aussi un très grand chef qu'on a un peu oublié, car la vraie cuisine vapeur, bien avant Guérard, c'est lui.
C'est lui.
Oui, exactement, vous faites bien de le rappeler.
D'ailleurs, moi, j'ai encore le cuitou vapeur de Jacques Manière.
Eh ben.
Voilà. Non, mais c'était vraiment. D'abord, c'est pareil, c'est des précurseurs. C'est-à-dire, il avait un vivier dans son restaurant. On voyait les poissons, les langoustes, les machins, etc. C'était incroyable. Et toute cette cuisine faite à la vapeur, on mangeait un turbo à la vapeur avec une sauce.
Ça n'empêchait pas d'être moderne dans l'assiette et en même temps éternellement parisien dans la salle.
Totalement.
Ce qui est le cas de ce plat aussi, qui est moderne dans l'assiette et qui est en même temps rustique comme on aime. Hein, ce gigot d'agneau de 7 heures, cher François Gagnère. On rappelle à nos auditeurs, tiens, parce qu'il y a un joli jus qui a une très très belle couleur. Il y a un fond d'agneau.
Hein, délicieux.
Qui est... Ouais, elle a tout fini, Michel Bernier.
On a fait le fond avec les carcasses, en fait, avec les morceaux d'os de gigot que j'ai désossé. Et puis voilà, on fait avec ce qu'on a.
Et les petites pommes de terre, comment sont-elles rôties?
Moi, je préfère d'abord légèrement les blanchir et après au beurre, tout doucement.
Voilà, beurre.
Un peu de beurre, mais un peu d'huile d'olive. On est entre les deux, nous.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
On se régale toujours à table aux côtés de Michel Bernier qui est venu nous voir avec Les Folies Fermières qui sort au cinéma le 11 mai. Didier Van Kovelaert nous a rejoint avec son dernier roman, Une vraie mère ou presque. On est réunis autour de ce plat, réunis religieusement autour d'un plat dressé par François Gagnère. Il n'y a presque plus rien dans les assiettes. Gigot d'agneau d'Auvergne avec des petites pommes de terre revenues juste à côté comme ça. Gigot d'agneau de 7 heures. On ne plaisante pas avec le temps de cuisson.
Ah non.
François Faut Gagnère. Michel Bernier, vous avez des figures marquantes comme ça, des modèles, des guides?
Oh, écoutez, dans ce métier, en tout cas, moi, les gens qui m'ont fait rêver, c'est évidemment merci la télévision, en fait. Par exemple, mes premiers émois en tant que future comédienne, on va dire, c'est vraiment Robert Hirsch dans Le fil à la patte. Et puis après, les Au théâtre ce soir.
Ah, au théâtre ce soir.
Où j'ai vu toutes ces femmes extraordinaires, Maillan, Mercadier, Pacôme, etc., donner cette espèce d'idée que peut-être on peut faire ça aussi un jour, faire rire, être libre. Parce que on parle beaucoup aujourd'hui de féminisme et tout ça, sur lequel évidemment je suis très très sensible, mais je crois qu'on oublie de dire que toutes ces femmes pionnières, on parlait des cabarets tout à l'heure sur le French Cancan, tout ça,
Les
femmes à un moment qui ont osé faire ce qui était à part de ce qu'on leur donnait comme rôle, elles sont féministes.
Par nature.
Mais
bien sûr. Je regardais en préparant l'émission, moi je vous ai découvert au petit théâtre de Bouvard, hein, comme de nombreux Français, avec vos camarades Mimi Mathy et Isabelle de Botton, avec les fameuses filles, hein, on vous a vu sur scène ensuite. C'est il y a déjà 40 ans, le théâtre de Bouvard, en 82.
C'est
un truc de dingue.
82, on poussait une porte où on ne savait pas trop ce qu'on allait devenir. On ne savait pas ce que c'était, d'ailleurs. On ne savait même pas ce qu'il voulait, Philippe. Il voulait de l'improvisation. On a fait quelques petits trucs. Et puis en fait, il nous a ouvert la porte. Et puis, il s'est rendu compte que les retours étaient bons. Et puis, on est devenus des stars en l'espace de 3-4 mois.
C'était des dizaines de millions de téléspectateurs.
17 millions.
17 millions de téléspectateurs avant le journal, vous vous rendez compte?
Voilà.
Alors vous,
j'y étais, oui.
Vous y étiez, oui. Et vous, vous avez commencé très tôt l'écriture aussi, hein, dans le genre précoce, 7 ans.
C'est oui, ça, oui, hein. 7 ans et demi. Oui.
7 ans et demi.
Quand on m'a appris à écrire à l'école, je me suis dit, mais c'est génial, les mots, ça sert à raconter des histoires, c'est mieux que les petits soldats, les ours en peluche et tout ça, c'est un outil formidable. Et puis je vais raconter des histoires et puis je vais après les envoyer à un éditeur, je serai publié. Je ferai rêver des gens que je connais pas, je les ferai marrer, je les ferai vibrer, et puis ça me rapportera de l'argent. Donc c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi faire autre chose? Ça, c'est la logique des enfants.
Et ça racontait quoi, votre premier votre
C'était des romans policiers au départ. Puis j'ai abandonné le genre parce que c'est trop difficile, les fausses pistes, les enquêtes. Je prenais les pieds dans le tapis. Donc je suis venu par flemme à ce que j'appelais à l'époque, de manière assez pompeuse, les études de mœurs.
À 7 ans, j'ai trouvé les études de mœurs.
C'est génial. Il y avait ça dans le bazar. J'explorais un petit peu bibliothèque de mon père, où Balzac voisinait avec Sant'Antonio, avec Frédéric Dard. Et là, on parlait de personnages marquants. Moi, j'ai eu la chance d'être ami de Frédéric Dard et être à table avec lui. Ça, c'était
ça ne plaisantait pas, ça non plus.
C'était fabuleux. Mais mon premier souvenir à table avec une figure marquante, c'est au Salon du Livre de Nice, le tout premier, c'était Eugène Ionesco. Oui. Et je vois Ionesco venir s'asseoir près de moi avec une bouteille. Je n'ai pas compris tout de suite le truc. Tout à coup, vous êtes un jeune auteur, vous voyez arriver cette légende vivante, cet homme qui a inventé le théâtre de l'absurde, qui arrive avec une bouteille, qui s'assied en tournant légèrement le dos. Et en fait, j'étais le seul qui ne buvait pas de l'eau à table. Et lui, sa femme l'empêchait de boire. Donc, il l'avait quitté, il tournait le dos et il venait pour me servir.
Ah, génial.
En fait, il buvait dans mon verre. Je ne peux pas vous dire qu'il m'est
absurde.
J'ai pas un souvenir immortel de notre conversation, qui était surtout. Je vous resserre encore un coup.
Oui. Mais bien sûr.
C'était merveilleux. L'intimité comme ça, qui crée des malentendus et des envies. C'est-à-dire qu'après, tout le monde venait me voir. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Alors, j'ai brodé un peu.
Bien sûr.
J'ai inventé que j'étais là pour autre chose que servir de
on
verre.
On a un roman en commun, on prévoit
de
quelque chose.
Comme aurait dit Blondin, j'ai servi de verre de contact.
Je lui ai donné des conseils.
Oui. Et qui disait ça aussi? C'était Blondin d'ailleurs. Blondin est le zinc métal conductible d'amitié. Quoi,
oui, c'est ça.
C'est ça.
Mais c'est ce qui manque aujourd'hui. On a transformé les bistrots parisiens en espèce d'endroit mode, un peu lounge, un peu machin, où tout le monde s'emmerde avec une musique improbable. On a enlevé ce côté de discussion.
Oui, et puis il y a aussi un côté factice. C'est-à-dire qu'on fantasme beaucoup les choses qu'on n'a pas connues. Et quand on veut les réinventer, comme le bistrot, tout ça est très factice. Finalement, le bistrot bobo, c'est quand même l'ersatz du bistrot.
Mais enfin, je préfère regarder un bistrot.
Je suis d'accord, il a une meilleure allure que...
M'asseoir que ces espèces d'endroits un peu bizarres où on est toujours généralement très mal assis.
Gardez la parole, tiens, Emmanuel Rubin, parce que dans le nouveau roman de Didi Van Kovelaert, Une vraie mère ou presque, il est question de télescopage, hein, si on veut parler ainsi, entre une mère disparue et
une
doublure qui va prendre sa place. Et à propos de télescopage, je voudrais que vous nous racontiez l'histoire d'un plat emblématique de la gastronomie française. C'est la soupe VGE, inventée par Paul Bocuse, la soupe Valérie Giscard d'Estaing, qu'on sert toujours d'ailleurs à Collonges.
Ah, hein. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, cette idée de télescopage m'en a rappelé une autre. Mais avant de parler du télescopage, parce qu'il y a eu télescopage dans cette recette, vous allez voir pourquoi. C'est vrai que nous avons un nouveau président. Et c'est l'une des rares recettes où la République assume d'avoir une volonté un peu gastronomique. Autant dans l'Ancien Régime, il aimait comme cela à ce que des recettes lui soient dédiées. On connaît tous la poule du bon roi Henri ou la crème du Barry. Mais la République, il a un peu des pudeurs gastronomiques, sauf ce jour du mois de février 1975, exactement le 25, où au cœur même de l'Élysée, dans la salle des banquets, un certain Paul Bocuse, je ne fais pas les présentations, va recevoir les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains même de Valéry Giscard d'Estaing. Et bien sûr, Bocuse, pour la circonstance, va orchestrer une recette parfaitement dédiée. Mais avant ça, il y a eu un petit couac.
C'est ça que je trouve génial, c'est que ces circonstances, en fait, elles relèvent du malentendu.
Hein,
et même d'un canular, vous allez nous raconter.
Total. Nous sommes à Lyon, il ne faut pas l'oublier. Ils aiment les calembours. En janvier 1975, Paul Bocuse apprend qu'il va recevoir la Légion d'honneur. Et il se vante un petit peu de manière bravache auprès de ses amis, de sa bande. Je ne vois qu'une seule personne qui pourrait me remettre ces insignes, c'est le président de la République lui-même. Et un de ses potes va envoyer un courrier à Paul Bocuse en lui disant « Bien, effectivement, le président va remettre en main propre et en personne ses insignes de chevalier de la Légion d'honneur. »
Un faux courrier de l'Élysée. Hein.
Totalement le calembour lourd à la lyonnaise. Et Bocuse, il y croit dur comme fer. Sauf que l'affaire, elle va bruisser sérieusement et remonter jusqu'aux grandes oreilles de l'Élysée et de Giscard. Et Giscard, qui va être magnanime, qui va dire qu'à cela ne tienne, si ça lui fait plaisir, tant pis, c'est une blague, mais moi, je vais en faire une réalité et je vais effectivement lui remettre les insignes de chevalier en direct à l'Élysée.
Génial.
Du coup, Bocuse se trouve un peu presque pris à son propre piège et il doit composer
un menu spécial. Hein, et à ce moment-là, ils viennent de capter à Lyonnaise, on est en pleine saison, hein, début de l'année, des superbes truffes. Et il a l'idée de compiler deux recettes. Une première qu'il a dégustée du côté de son meilleur ami lors d'une soirée de chasse.
Paul Héberlin, en Alsace.
Exactement.
Ah oui, à l'auberge
de l'Isle aux
Herbes.
Il a dégusté une manière de tourte. Une tourte à la viande. Il dit, ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, et il y avait aussi une truffe prise dans le feuilletage. Quelque temps avant, il se balade dans la campagne ardéchoise et là, il découvre un potage très paysan, là encore à base de truffes. Il va compiler les deux recettes, c'est-à-dire qu'il va faire un bouillon de truffes dans lequel il va rajouter quand même du foie gras, il va le corser, il va l'épicer, il va mettre du noix liprate, et puis il va le servir dans ce qu'on appelle une soupière à braiser du côté de Lyon. Et cette soupière à braiser, il va verser le bouillon et puis il va mettre une abaisse de pâte feuilletée. Oui. Cette abaisse de pâte feuilletée, il va la passer au four, elle va légèrement gonfler et c'est ce qu'il va servir à la table du président de la République le 25 février 1975.
Comme une montgolfière. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, il a un bon mot à l'endroit du président de la République.
C'est-à-dire qu'il a le sens de la République, le père Bocuse. C'est-à-dire que Végé lui dit « Mais chef, ça se mange comment cette affaire ?» Et là, il dit, bah, écoutez, président, on casse la croûte. C'est effectivement, on doit casser la
génial.
Croûte. Donc, il a toujours le bon mot. Et l'adresse et la recette va faire vraiment florès, puisque depuis exactement 47 ans, elle est toujours servie à l'auberge de Colombes chez Paul Bocuse.
Exactement.
J'ai calculé, ça fait 9 quinquennats et demi.
Oui, même en dehors de la saison de la truffe, hein, ouais, elle est servie.
On peut en discuter.
Voilà, on peut en discuter, mais elle est servie.
Mais c'est le privilège des institutions.
Oui. Et je voudrais...
9 quinquennats, hein.
Oui,
ça fait réfléchir. Hein. C'est le talent de durée, ça.
Et un petit mot aux auditeurs qui voudraient avoir la chance de goûter ce plat. Attention, il n'est pas servi chaud, il est servi brûlant. Donc faites bien attention quand vous... Mais là, je plaisante pas parce qu'il est vraiment... Il sort du four, il est brûlant. Donc il faut attendre un petit peu.
Il faut d'abord le manger avec l'appareil nasal et les yeux. Parce qu'effectivement, il y a une montée
et
comme ça
après,
de truffes qui est absolument impressionnante.
Alors avant de dire au revoir à nos auditeurs, je vais vous demander vos coups de cœur. Mais alors tiens, juste avant, je voudrais qu'on parle d'un coup de cœur que nous partageons tous actuellement. Un fromage que vous nous avez apporté, cher François Gagnère, du restaurant Anicia à Paris. Tiens, je vais demander à nos invités s'ils savent avec quoi il a été affiné, ce fromage.
Oh, je ne suis pas assez doué pour deviner, mais en tout cas, je suis assez bonne pour le manger.
Vous avez vu, il y a des petits trous, il y a une aération
à
l'intérieur.
Oui, effectivement. Alors, c'est surtout,
Il y a un marc, non ?
Voilà, vous apercevez qu'il y a des petites cavités sur l'extérieur.
Sur la croûte aussi, oui.
Et sur la croûte. Et donc, c'est un fromage qui est affiné. Je fais le suspense, au ciron, fromage cironné. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. C'est aux arachnéens, aux araignées microscopiques. Donc, ce sont des araignées.
La tête de Michel.
Heureusement qu'on ne me le dit pas avant.
Voilà.
Comme quoi, on me dit toujours, « Oh, tu ne manges jamais la croûte. » Ouais, bah, j'ai bien fait.
Allez, et maintenant, on va se faire une toile.
C'est ça, exact. Bien vu. Le fromage aux artisous. Alors, vos coups de cœur, chers invités, pour nos auditeurs, ils sont toujours friands d'un conseil. Ça peut être un livre, une expo. Quel coup de cœur pour nos auditeurs, Michel Bernier ?
En ce moment, j'ai un peu de nostalgie du début du XXe siècle, fin XIXe, sur les séries, par exemple. Et là, je suis tombée sur une série qui s'appelle The Gilded Age, qui parle du New York des années 1900, avec le côté social des New Yorkais installés, on va dire, riches, et puis les parvenus, comme on a appelé ça il y a quelques années, tous ces gens qui étaient des pionniers, en fait, qui ont commencé à amener le train... toutes ces choses qui ont fait l'industrialisation des pays. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette série. C'est un peu à la Downton Abbey, on va dire. Voilà.
Redites le titre.
Gilded Age.
Sur Netflix. Netflix. Didier Van Kovelert, un coup de cœur pour nos auditeurs.
Ça va être un coup de cœur préventif, parce que j'ai vu la bande-annonce et je la trouve formidable. Et c'est le film dont vous parlez, c'est les Folies Fermières. C'est rare de voir une bande-annonce aussi alléchante. Vous avez le sens, vous avez le rythme du film, vous avez la réalité paysanne, et vous avez l'ambiance du cabaret, quelques couleurs, quelques paysages intérieurs des personnages, tout ça, je trouve ça formidable. Et donc, je suis sûr que je vais adorer le film.
Eh ben, Les Folies Fermières, c'est le 11 mai au cinéma. Merci François Gagnère de nous avoir régalé.
Merci.
On vous retrouve dans votre restaurant Anicia à Paris, dans le 6e arrondissement. Salut Emmanuel Rubin, à la semaine prochaine. Merci Michel Bernier infiniment.
Merci à vous.
On était heureux de vous avoir à cette table du dimanche. Merci Didier Van Kovelert.
C'est toujours un plaisir.
Eh ben, partagez, exactement. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission.